Radio Okapi, un partenariat entre la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo et la Fondation Hirondelle. Avec le soutien des gouvernements de Suisse, de Grande-Bretagne, de France, de Suède, d'Allemagne et de Belgique.
Nous parlons aujourd'hui de la jaunisse chez les enfants. Comment la prévenir? Vous avez des questions à ce sujet? Faites le 081 890 63 94. Vous pouvez également nous envoyer un SMS au 081 070 20 50. Et nous en parlons avec Dr. Luc Kamanga, qui est déjà dans ce studio. Il est pédiatre à la clinique Galima. Bonjour.
Bonjour Thérèse.
Alors docteur, qu'est-ce que la jaunisse?
La jaunisse, c'est tout simplement la coloration jaune des tégments et muqueuses qui peut se faire remarquer dans plusieurs situations. Elle est plus observée pendant la période néonatale, c'est-à-dire de la naissance jusqu'à 28 jours. Il y a beaucoup de phénomènes, beaucoup de maladies qui sont accompagnées d'une coloration jaune des tégments et des muqueuses, donc la peau et tout ce qui est comme muqueuse. Voilà la jaunisse.
Mm-hmm. Et là, la peau devient jaune?
Bon, la peau devient jaune verdâtre. Et c'est ce qui est remarquable en tout cas. Mm-hmm. Et cela est dû à un pigment, la bilirubine, qui se déverse dans la circulation et va imprégner tous les tissus. Et c'est ça qui se fait remarquer par cette coloration jaune verdâtre. Mm-hmm. Qu'on peut voir sur la peau de l'enfant.
Est-ce qu'il y a d'autres symptômes ou il n'y a que la coloration de la peau?
Les symptômes sont fonction des maladies qui accompagnent, parce mm-hmm. que la jaunisse, en fait, c'est un signe. Et derrière ce signe, il y a beaucoup de maladies. Et donc, d'autres signes peuvent accompagner cette jaunisse en fonction des maladies. Par exemple, un enfant qui fait une infection sévère, surtout en période néonatale, au-delà de la jaunisse, vous verrez par exemple qu'il fait beaucoup de fièvre, mm-hmm. vous verrez qu'il va développer un foie plus gros que normalement, une rate plus augmentée de volume, c'est un enfant qui aura un comportement neurologique perturbé, et c'est un enfant qui va probablement refuser de téter, voilà, donc tout mm-hmm. un cortège de signes qui peuvent accompagner ce signe principal qu'est la jaunisse.
Mm-hmm. Donc là, vous avez, si j'ai bien compris, parce que là, vous parlez de la rate qui est gonflée, le foie qui prend un volume anormal, ça, c'est pas tout de suite décelable à l'œil nu pour les parents qui nous suivent en ce moment.
Oui.
Donc, est-ce qu'il y a, à part la période là que vous venez de les 28 jours, est-ce qu'il y a, ça peut être aussi après ou bien c'est juste entre de 0 à 28 jours?
À tout âge, on peut observer une jaunisse, mm-hmm. à tout âge. Maintenant, les étiologies, si vous voulez, les causes sont différentes selon ces âges. Chez les personnes adultes, par exemple, ou les grands enfants, vous verrez une jaunisse très souvent dans le cadre d'une malaria qui se fait accompagner d'une hyperhémolyse, c'est-à-dire une destruction importante des globules rouges, des versants, ainsi cette bilirubine. Vous la verrez dans les infections sévères également, ce qu'on appelle, nous appelons les septicémies ou les sepsis. Vous verrez également cette jaunisse, mais surtout dans les maladies qui affectent le foie, parce que c'est le foie en fait qui est l'industrie de l'organisme. Dès qu'il y a des perturbations à ce niveau-là, le foie, l'un des signes qui montre qu'il y a une perturbation là-bas, c'est la jaunisse. Mm-hmm. Donc, chez les adultes, chez les grands enfants, on peut observer.
Mm-hmm. La coloration chez les adultes aussi, la coloration de la peau.
Bien sûr, la coloration devient jaune. Vous allez me poser la question, mais sur peau noire, comment on va
pas
faire?
Comment c'est quand même difficile.
Bon, ça sera plus facile de le voir, parce que quand bien même on a la peau noire, on a quand même le blanc de l'œil tout blanc. Mm-hmm. Donc, c'est à ce niveau-là que vous allez remarquer cette jaunisse qui est pour laquelle on ne peut pas se tromper. Mm-hmm. Donc, noir, blanc, jaune, finalement, au niveau du blanc de l'œil, c'est jaune.
Mm-hmm. Donc les parents doivent commencer à s'inquiéter dès que l'enfant
fait
de la fièvre, il refuse de téter.
À partir du moment où l'enfant est jaune, mm-hmm. dès qu'ils remarquent que l'enfant jaunit, c'est déjà un signe inquiétant. Il est impérieux pour eux de courir voir le médecin mm-hmm. qui va lui détecter d'où vient cette jaunisse-là et commencer à traiter la cause. Parce que c'est toujours ça le problème.
Mais voilà. Comment est-ce qu'on attrape cette maladie?
Ah ben ça c'est une question qui ressemble à un océan. Comment on l'attrape? Mm-hmm. Ça veut dire comment on attrape toutes ces maladies qui finalement débouchent sur la jaunisse. Je vous ai parlé de quelques étiologies, les étiologies infectieuses. Donc, quand vous attrapez une infection qui affecte tout l'organisme, tout le sang, Donc vous avez la jaunisse. Comment on l'a attrapé? C'est parce qu'on a attrapé cette infection. Et cette infection, vous pouvez l'avoir soit par la voie aérienne, en respirant tout simplement. Mm-hmm. Vous attrapez des microbes, soit par contact. Si vous avez une solution de continuité au niveau de la peau, vous pouvez également attraper une infection. Soit une infection qui était latente au niveau de l'organisme, mais à la suite d'une certaine dépréciation immunitaire, elle se réveille. Elle devient plus importante, elle peut également développer cette jaunisse. Mais plus particulièrement en période néonatale, comme je viens de dire ici, les causes sont tellement multiples. Il y a par exemple les prématurés qui sont les champions dans la jaunisse, parce que là, la cause principale, c'est l'immaturité hépatique, donc le foie qui n'est pas encore suffisamment mature pour pouvoir transformer cette bilirubine et pouvoir la charrier dans les selles et dans les urines. C'est la voie d'évacuation en fait. Hein? Mm-hmm. Parce que quand cette voie n'est pas correcte, l'enfant fait la jaunisse. C'est encore des problèmes d'infection pendant la période néonatale. Il y a des problèmes de transfusion. Il y a des problèmes d'incompatibilité surtout. Hein? Surtout les incompatibilités rhésus. Un peu avec des incompatibilités ABO. Mais il y a aussi d'autres incompatibilités, notamment à l'hémoglobinose C, KEL, et ainsi de suite. Il y a certaines déficiences en enzymes, notamment la déficience en G6PD, en pyruvate kinase. Il y a des maladies constitutionnelles qui sont accompagnées d'une destruction importante des globules rouges. C'est le cas de l'hémolyse constitutionnelle dans la sphérocytose, dans toutes les malformations intéressant le globule rouge.
Vous voulez participer à cette émission, vous pouvez nous appeler au 081 890 63 94. Vous pouvez également nous envoyer un SMS au 081 070 2050. Docteur Luc Kamangan, rappelant nos auditeurs que vous êtes pédiatre à la clinique Galliema, est-ce que la jaunisse présente des complications?
Ah oui, la jaunisse présente beaucoup de complications. Et les plus importantes que nous observons, c'est surtout en période néonatale, lorsque cette jaunisse est très importante, elle va se fixer au niveau des noyaux gris centraux, au niveau du cerveau, et à partir de ce moment-là, l'enfant va développer une perturbation neurologique qui va demeurer définitive. Donc ça, c'est une des complications majeures, hein. C'est ce qu'on appelle l'ictère nucléaire, ok? Donc quand un nouveau-né est atteint d'un ictère, c'est une urgence, il faut aller tout de suite à l'hôpital pour qu'on arrête la progression de cet ictère. Sinon, ça va atteindre le cerveau et dès que le cerveau est atteint, la partie détruite va le rester pour le restant de la vie. Et donc ça, c'est une des complications, mais bien sûr, selon les étiologies, vous pouvez avoir d'autres complications hein, si la jaunisse fait accompagner, par exemple, d'une importante maladie au niveau du foie. Vous pouvez avoir d'autres substances toxiques qui, à la suite de cet ictère-là, vont aussi atteindre le cerveau. Ça, c'est pas seulement en période néonatale, mais aussi à un âge plus avancé.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à appeler au 081 890 63 94 ou envoyer un SMS au 081 070 2050. Et Alain nous appelle déjà depuis Colouisi. Bonjour. Bonjour Alain.
De la radio Kassi. Ma question est celle-ci. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas un vaccin approprié pour cette maladie? Il y a d'autres enfants qui naissent avec cette maladie. Il n'y a pas un vaccin approprié pour cette maladie.
Docteur?
Il n'y a pas de vaccin approprié pour la jaunisse. Je voudrais rappeler que la jaunisse n'est qu'un signe et qu'il y a beaucoup de maladies en dessous de ce signe. Bon, certaines de ces maladies peuvent être prévenues par le vaccin. Mais la jaunisse en soi, il n'y a pas de vaccin. Il n'y a que des préventions qu'on peut faire. On peut faire la prévention en évitant tous les facteurs pouvant concourir à l'éclosion de cette jaunisse. C'est le cas, par exemple, en période néonatale, éviter que l'enfant ne naisse prématuré. Donc, faire tout pour que maman garde sa grossesse jusqu'à ce que l'enfant soit suffisamment mature. Là, on aura moins de problèmes que cet enfant développe un ictère à cause de l'immaturité de son foie. c'est l'éviction des infections en période néonatale, par exemple. Donc, en évitant tous les facteurs qui peuvent entraîner des infections chez ces enfants, c'est éviter les transfusions non contrôlées par la pratique de la compatibilité qui soit correcte. C'est éviter également que cette union entre maman et papa ne se développe sur un terrain où il y a probabilité qu'il y ait des incompatibilités par rapport au groupe sanguin. Donc c'est un lot de facteurs qu'il faut pouvoir éviter. Il y en a plusieurs d'autres, la liste n'est pas exhaustive, mais il n'y a pas de vaccin. Voilà.
Docteur Luc Manga, moi je voudrais savoir, est-ce que la jaunisse est contagieuse?
La jaunisse en tant que telle n'est pas contagieuse. Ce qui est contagieux, c'est ce qui est en dessous. S'il s'agit d'une infection, alors cette infection elle est contagieuse, donc elle peut attraper quelqu'un d'autre.
Alors pour les parents qui nous suivent en ce moment, quelles mesures faut-il prendre quand on a un enfant qui est atteint de la jaunisse, disons un bébé, mais on a d'autres enfants à bas âge, disons de 2, 3 ans à la maison, quelles mesures ils doivent prendre ces parents-là?
Par rapport à la contagion, il n'y a pas grand chose à faire, mais la mesure, la première que les parents doivent prendre, c'est d'amener l'enfant à l'hôpital. C'est à l'hôpital où on pourra bien prendre soin de lui. Et si jamais il développait une maladie infectieuse et contagieuse en dessous, à l'hôpital, on saura notamment l'éloigner, enfin, disons l'isoler pour éviter qu'il ne puisse contaminer les autres. Lorsqu'on se trouve loin d'un centre hospitalier, là je parle de la période néonatale, la jaunisse, un moyen de pouvoir, diminuer l'ampleur ou les conséquences de cette maladie, c'est d'exposer l'enfant au soleil, un soleil doux, de déshabiller suffisamment le matin et laisser les rayons solaires pénétrer la peau de l'enfant. Ça va aider à détruire les liaisons de bilirubine ça va créer, si vous voulez, des métabolites qui sont hydrosolubles, donc qui peuvent être éliminés. Donc ça diminue l'ampleur. Mais à l'hôpital, nous avons un arsenal de choses que nous utilisons pour briser tous ces liens-là. Il y a notamment la photothérapie, donc une lumière spéciale qu'on fait pour exposer l'enfant à cette lumière. Il y a des médicaments que nous donnons aussi pour éviter que cette icterne continue à se développer. Il y a tous les traitements en dessous, donc par rapport à l'étiologie, que nous pouvons également donner. L'alimentation qui est très importante, parce que chez les nouveau-nés notamment, lorsque l'alimentation ne suit pas, surtout une alimentation par la bouche, ça fait que cet enfant va accélérer le développement de son ictère.
Donc
à l'hôpital, nous prenons, connaissant la physiopathologie, connaissant les conséquences de cette maladie, nous prenons toutes ces précautions. Donc c'est dire que la meilleure solution, c'est finalement amener l'enfant à l'hôpital.
Ici, vous avez parlé de l'alimentation, vous voyez spécialement l'allaitement ou bien...
L'allaitement maternel aide beaucoup, c'est très très important, parce que dans l'allaitement maternel, vous avez non seulement les protéines, et il faut rappeler ici que la bilirubine, lorsqu'elle est déversée dans le sang, elle est transportée par les protéines. Si l'enfant n'a pas de protéines, notamment l'albumine, il ne saura pas transporter cette bilirubine jusqu'au niveau où il doit être conjugué, donc au niveau du foie. Donc ça peut faire que cet enfant développe plus d'ictère. En plus, le fait de s'alimenter par la bouche va aider le tube digestif à se coloniser, donc qui est des microbes au niveau du tube digestif, et ces microbes sont nécessaires parce qu'ils vont permettre de prendre en charge la bilirubine qui est envoyée là-bas par le foie et qui va permettre de transformer cette bilirubine en stercobiline pour les selles et en hirobiline pour les urines. C'est pour ça que vos urines ou les urines des bébés, ils sont jaunes. Ça, c'est une situation normale. Les selles sont généralement jaunes aussi, c'est à cause de ça. Mais s'il n'y a pas cette alimentation, donc il n'y aura pas colonisation du tube digestif, ce qui va faire que la bilirubine qui est chargée là-bas va subir ce que nous appelons le cycle entérohépatique. Donc, ils vont rentrer dans la circulation sanguine et se retrouver encore au niveau du foie. Et donc, ça fait un cycle comme ça.
Bon, tout ça, c'est compliqué. Nous, je pense que pour les moments de la RDC, on va retenir qu'il faut que l'allaitement...
Il faut alimenter tôt.
Oui.
Il faut amener l'enfant à l'hôpital. Mm-hmm. Parce qu'enfin, il y a une infection qui est en dessous. Il faut, à l'hôpital, on sait prendre des précautions pour ne pas donner du sang qui n'est pas compatible. On sait prendre toutes ces précautions.
Vous avez parlé d'une autre précaution que toutes les mamans de la RDC peuvent faire, c'est mettre l'enfant, exposer l'enfant au soleil le matin, disons, parce que là, le soleil est doux.
Matin.
Mais combien de minutes?
Pourvu que ce soleil ne brûle pas la peau, et il n'est pas nécessaire de le mettre sur des rayons directs, à travers une vitre.
On le sort un peu dehors.
À travers une vitre par laquelle on perçoit des rayons solaires, on peut déshabiller l'enfant et l'exposer.
Combien de temps?
Bon, une heure, c'est bon. On peut le faire par intermittence. Une heure, on le repose 2-3 heures, puis on le remet encore, ainsi de suite, sur la journée. Ce n'est pas une corvée, l'enfant ne doit pas rester au soleil comme ça pendant des heures. Il y a d'autres conséquences qu'il faut craindre.
Okay. Voilà. Oui. Alors, nous allons prendre deux autres auditeurs qui sont en ligne. Il s'agit de Gondélé, qui est à Issiron, en province orientale, et Baudouin, à Colouésie. On va commencer par Gondélé. Bonjour.
Bonjour Radio Capi, bonjour docteur, bonjour tous les auditeurs de Radio Capi. J'ai une préoccupation pour le docteur. Bon, quand nous fûmes en 6e des humanités, on nous avait parlé d'une maladie qu'on appelle ictère hémolytique du nouveau-né. Dans les types d'ictère, je voulais demander au docteur quel est le type qui sait guérir vite et quel est le type qui peut présenter des complications et quel serait pour nous parents, les précautions nécessaires à prendre. Merci.
Très bien, Gondélé, merci pour la question. L'ictère hémolytique du nouveau-né, effectivement, c'est une pathologie fréquente qu'on observe en période néonatale. Ça signifie tout simplement qu'à un moment donné, pendant la grossesse, entre la mère et l'enfant, il y a eu des changes immunologiques qui font que l'enfant... le sang de l'enfant finit par s'hémoliser, donc les globules rouges se détruisent, libérant l'hémoglobine à nu, et l'hémoglobine, lorsqu'elle est à nu, elle va se désintégrer et donner lieu à la bilirubine. Cette maladie s'observe quand l'enfant est porteur d'un rhésus, du groupe sanguin rhésus positif, alors que la mère est rhésus négative. Alors, il n'y a pas de problème normalement pour la première grossesse, parce que les échanges se font de telle manière que l'enfant, la mère est sensibilisée, mais c'est au cours de la deuxième grossesse et les grossesses suivantes que le problème va se poser, parce que une mère ayant été sensibilisée à la première grossesse, il va se faire que lors de la deuxième grossesse, cette sensibilisation-là va agir par incompatibilité au niveau de l'enfant qui se développe, et celui-là va développer ce que nous appelons la maladie hémolytique du nouveau-né. C'est très dangereux parce que les conséquences, et c'est pour répondre au deuxième volet de votre question, cette maladie est l'une qui pourvoit le plus de bilirubine possible. Et elle commence très tôt. Dès le premier jour, vous avez un enfant tout jaune. Et si le phénomène s'est créé beaucoup plus intensément dans le sein, l'enfant peut même naître mort, ou alors naître avec un gonflement généralisé, comme nous appelons la nasarque. Donc c'est très très dangereux. Voilà. Donc, et la conséquence, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'ictère nucléaire, si l'enfant ne décède pas déjà à cause de son anémie, si l'enfant ne décède pas in utero, à cause de cette incompatibilité, il va développer l'ictère nucléaire, c'est-à-dire un cerveau fortement affecté, et l'enfant reste handicapé pour la vie.
En marge des festivités commémoratives de la Journée internationale de la femme, du 18 au 21 mars 2010, Radio Capi et la section Genre de la MONU vous proposent en direct de la Pékin la première édition kermesse Paix et Égalité des Chances dans un Congo cinquantenaire. À l'affiche, animation culturelle, exposition de produits par les femmes, présentation théâtrale, exhibition des danses folkloriques et autres. Radio Capi, la radio service de la femme.
Vous venez de nous rejoindre sur les antennes de Radio Capi. Nous parlons de la jaunisse chez les enfants. Comment la prévenir? Et nous en parlons avec le docteur Luc Kamanga, pédiatre au clinique Ngaliema. Nous avons deux autres auditeurs qui sont en ligne, Baudouin et René, qui nous appellent de Kinshasa. Mais lui, Baudouin, il nous appelle de Colouésie. Bonjour, Baudouin.
Bonjour, madame Thérèse Bassébi.
Vous avez la parole.
Je voudrais bien poser une question au docteur. J'ai un enfant qui a commencé d'abord par la malaria et puis il a développé la jaunisse. Je voudrais savoir, c'est une pathologie ou bien un symptôme? Et pourquoi on met souvent les malades qui souffrent de la jaunisse sous les prisons? Et aussi, ça peut prendre une ampleur chronique, la jaunisse.
Oui, merci Baudin pour la question. La malaria produit souvent la jaunisse chez les enfants. C'est un symptôme. Donc la jaunisse qui apparaît chez les enfants développant une malaria, c'est un symptôme, comme la fièvre, comme tous les autres symptômes qui peuvent accompagner une maladie. Mais par rapport à votre deuxième volet de questions, pourquoi on donne souvent le litrison? Bon, le litrison n'est pas donné pour soigner la jaunisse. Le litrison est donné notamment dans les cas de certaines hépatites, dans les hépatites virales notamment, on donne pour fortifier un peu la constitution du foie, pour pas que les destructions soient très importantes, on donne un peu de litrison, mais ce n'est pas pour soigner la jaunisse. Voilà.
Mm-hmm. Il a aussi posé il voulait savoir aussi si la chronique était, si la jaunisse pouvait devenir chronique.
La jaunisse peut devenir chronique. Des exemples abondent. Vous rappelez peut-être, on a déjà parlé ici des enfants drépanocytaires, hein, des enfants qui souffrent d'anémie SS. Et donc ces enfants ont justement cette particularité aussi qu'à cause de leur anomalie au niveau de l'hémoglobine, ils auront tout le temps des hémolyses, c'est-à-dire des destructions des globules rouges, tout le temps. Ce qui fait que ces enfants, généralement, ils ont d'une manière chronique un ictère avec eux. Ça, c'est une des situations. Mais il y a d'autres situations, notamment dans les hépatites, où vous pouvez avoir une jaunisse qui soit se répète tout le temps, soit qui est là de façon très prolongée, dès lors que le phénomène au niveau du foie n'est pas encore arrêté.
Voilà, nous allons prendre René, qui nous appelle depuis Kinshasa. Vous avez la parole, René.
Oui, ma question est posée au docteur. Je voulais seulement... Enfin, j'ai un enfant. D'après les explications du docteur, j'ai bien suivi, qui présente les symptômes de la jaunisse. Et souvent, quand elle fait la fièvre, soit quand elle atteint de la malaria, il y a malaria, soit une infection, elle présente des symptômes de jaunisse. Mais quand on le traite à des antibiotiques et de l'antimalaria, automatiquement, ça disparaît, et les yeux deviennent tout blancs. Alors, je voulais maintenant poser la question au docteur, puisque ça se répète souvent, et est-ce qu'il n'y a pas un médicament curatif, ou soit il n'y a pas de méthode qu'on peut appliquer préventif pour qu'on puisse arriver à une solution définitive?
Médicament curatif, si vous parlez de cas de malaria, les médicaments curatifs, il y en a. Il y a beaucoup de médicaments qui sont sur le marché. En suivant la politique nationale, vous avez actuellement l'association Amodiaquine Artisinate, qui est la première ligne de traitement de malaria simple, comme on l'appelle. Mais il y a aussi la quinine qui est à côté, pour soigner les malarias graves. Donc, sur le plan curatif, vous pouvez soigner la maladie qui est en dessous. Mais curatif, pour soigner l'ictère, bon, vous comprenez que c'est un signe qui accompagne d'autres maladies. Dès que la maladie sous-jacente s'arrête, ben l'ictère aussi s'arrête. Donc, vous soignez indirectement l'ictère en soignant la maladie en dessous. C'est tout simplement ça. Et voilà. C'est comme un peu la première question, savoir s'il y avait un vaccin par rapport à ça. Il n'y a pas de vaccin.
Mm-hmm. Alors, Patrick nous a également écrit de Bounia, en province orientale. Il veut savoir si l'utilisation d'huile de palme sur la peau de l'enfant peut soigner la jaunisse.
Non. L'utilisation de l'huile de palme sur la peau ne soigne pas la jaunisse. Au contraire, elle peut compliquer le bidon, parce que cette huile de palme va constituer un film au niveau de la peau. Et si jamais les rayons solaires qui pouvaient aider à détruire les liaisons de bilirubine au niveau de la peau ne peuvent pas pénétrer à cause de ce film d'huile de palme qu'on a induit sur l'enfant, vous comprenez que le phénomène sera ralenti, et donc ce n'est pas conseillé du tout.
Donc il ne faudrait pas mettre de l'huile de palme aux enfants en général?
Non.
Ok, on va prendre Ignace qui nous appelle de Colwezi. Bonjour Ignace.
Bonjour les auditeurs de Radio Capi. J'ai une préoccupation, hein. Je voudrais savoir, au Katanga, il y a souvent la boisson appelée Munkoyo, qui est fabriquée à base de maïs. Elle est sucrée. c'est celle qui est beaucoup plus donnée aux gens qui souffrent de jaunisse. Alors, je voudrais savoir si le docteur invité peut réagir par rapport à cette pratique.
Mon koyo, c'est une boisson alcoolisée, à ce que je sache. Bon, et donc, je ne sais pas, on ne soigne pas l'ictère en donnant de l'alcool. Mais par contre, le sucre qu'il y a dedans peut aider, parce que toutes les situations qui envoient le malade vers une hypoglycémie, c'est-à-dire une diminution du taux de glucose dans le sang, va favoriser l'ictère, va favoriser la destruction des globules rouges et ainsi de suite. Donc le sucre là peut être nécessaire. C'est pour ça que les enfants qui présentent l'ictère doivent manger, les personnes qui sont ictériques doivent manger, on doit leur apporter du sucre, on doit leur apporter des protéines, moins de graisse en tout cas. Parce qu'à ce moment-là, les graisses, ça, soi-disant en passant, quand vous les donnez, ils vont compétir au niveau des liaisons de globules sur l'albumine. C'est un peu
les
trop technique.
Les graisses pour les gens qui nous suivent en arrière, graisses, il y a un exemple.
La margarine, le beurre, tout ce qui est graisse en tout cas, ou la viande avec beaucoup de graisse, c'est pas conseillé pendant qu'on fait l'ictère. Parce qu'il faut se rappeler, dans la physiopathologie, que la bilirubine est fixée sur l'albumine, sur deux sites. Mais il y a le deuxième site qui devait prendre une deuxième molécule de bilirubine qui est souvent en compétition, et c'est souvent avec des acides gras, c'est-à-dire avec des graisses. Alors, si vous donnez beaucoup de graisse, ils vont occuper ces sites, et donc la bilirubine ou l'albumine ne sera pas fixée suffisamment de bilirubine pour envoyer au niveau du foie où il sera décomposé et éliminé. Donc, ce n'est pas conseillé pour cette raison-là. Bon, sur ce deuxième site-là, il n'y a pas que les acides gras, il y a d'autres médicaments qui viennent se fixer aussi. C'est pour ça que même pour les médicaments, il faut choisir lesquels donner pendant cette période-là.
Voilà, donc on préférait les bouillons ou les pépés soupes, ou comme on dit
chez nous. Soupes,
voilà, c'est par là.
Sucré.
Voilà, c'est par là que nous allons clôturer cet entretien. Merci à vous, docteur Lucas Manga. Vous rappelons que vous êtes pédiatre aux cliniques Ngaliema. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions.
Merci Thérèse. Je voudrais également rappeler que ces émissions sont conçues et en collaboration avec la Société de pédiatrie du Congo démocratique, dont je suis le président. Et donc je salue Radio Okapi qui nous permet de nous exprimer, qui permet également à notre population d'être éclairée sur les sujets de tous les jours. Et donc cette collaboration, je la vais la plus pérenne possible. Merci.
Merci, à la prochaine.
Okapi Service.